Bien, merci de vous être plié aux contraintes qui nous ont été imposées par la présidence de la République pour la présentation du projet sur l'intelligence artificielle dans ces locaux hier, qui nous a obligés à déplacer les cours et les séminaires. Pour ce dernier séminaire de l'année, on va s'intéresser à une question qu'on a déjà effleuré dans un séminaire précédent, celui d'Ismaël Moya, qui est la question des échanges et de la monétarisation des échanges, et au fond des relations qui se tissent entre des humains, quelquefois par l'intermédiaire de non-humains, soit dans des transactions classiques comme celles qui étaient que Ismaël Moya avait étudié, c'est-à-dire essentiellement des choses liées à des mariages en particulier qui permettaient de la circulation d'argent, soit des transactions qui n'impliquent pas de l'argent. Et c'est ce dont va nous parler aujourd'hui Olivia Anger, puisqu'elle a étudié dans le nord de l'Argentine des marchés très originaux, puisque ce qu'on y vend notamment, ce sont des miniatures. Ce qui rejoint évidemment un intérêt, un des intérêts, quelque chose qui a été développé aussi dans ce cours et dans ce séminaire il y a quelques années sur la miniaturisation du monde. Et ce dont elle va nous parler précisément, ce sont les relations de troc qui se constituent dans ces marchés. Alors Olivia Anger est professeure à l'Université libre de Bruxelles, comme David Berliner, qui est venu il y a quelques semaines. Elle a publié d'ailleurs avec David Berliner un livre sur la nostalgie, donc c'était quelque chose d'assez différent de ce dont elle va parler aujourd'hui. Elle travaille donc sur les Andes, sur des communautés autochtones, mais ce n'est pas au Pérou, c'est dans le nord de l'Argentine, où il y a effectivement des communautés extrêmement intéressantes. Il y a notamment aussi des lieux de production de sel, avec des caravanes de sel. Enfin, il y a des choses tout à fait originales dans cette partie de l'Argentine. Et donc, je la remercie d'être venue de Bruxelles pour nous parler de son travail aujourd'hui. Je laisse la parole.
Bonjour à tous. Mais avant tout, c'est moi qui aimerais vous remercier, professeur Descola, de me donner l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui le résultat de ces recherches que je mène en effet dans le nord de l'Argentine sur les foires d'échange. Aujourd'hui, il ne va pas être question des miniatures qui ont été évoquées par professeur Descola, mais d'autres foires où les gens échangent des biens et de la nourriture pour qui ont une valeur essentiellement instrumentale. Voici tout de suite donc le panorama général d'une de ces foires. Alors l'objectif de ma présentation, c'est de tâcher de dévoiler quelles sont les valeurs sociales qui peuvent être produites par le troc. Donc non seulement je ne vais pas seulement me focaliser donc sur les valeurs économiques qui émergent dans ces transactions, mais essayer de révéler aussi quelles sont les valeurs sociales et la créativité sociale qui est déployée à travers ces transactions. Ces transactions de troc qui, en particulier, sont qualifiées par les paysans de cambio. Donc cambio, ça veut dire échange dans l'espagnol parlé dans cette région de l'Argentine. Et je vais essayer d'étudier précisément, donc de développer une ethnographie du cambio pour essayer de comprendre quelle est donc la performativité sociale de cette figure d'échange. Alors la plupart du temps, ce cambio se pratique lors de ces foires dont vous voyez ici une illustration. Ces foires d'échange s'enchâssent elles-mêmes dans des célébrations religieuses, dans des fêtes patronales, qui se composent également de bals, de compétitions sportives, de festins. Donc il y a toute une série, évidemment, de processions et de rituels ecclésiastiques. Donc il y a toute une série de composantes pour ces fêtes religieuses. Et moi, j'aimerais vous montrer que la foire et ses échanges par cambio constituent un des éléments par lesquels ces paysans célèbrent ces entités religieuses, ces saints, et derrière les saints se cachent aussi des figures telluriques et des ancêtres. Alors, ces fêtes patronales, elles ne représentent pas une spécificité propre de cette zone du nord de l'Argentine. Elles se retrouvent partout à travers les Andes et dans beaucoup de cas, des foires, des échanges sont réalisés à l'occasion des fêtes patronales. Donc, il ne faut pas voir ça nécessairement comme étant un cas spécifique au nord de l'Argentine. Et d'ailleurs, je pense que dans d'autres régions du monde, dans d'autres aires culturelles, on peut aussi observer des réseaux d'échanges, des interactions économiques qui s'instaurent et qui se pratiquent dans le cadre de célébrations religieuses. Et donc peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui pourra être mis en débat, en comparaison avec d'autres aires culturelles. Mais ça, ça ne sera pas mon propos, puisque moi, je vais me restreindre aujourd'hui à ce qui se passe dans les Andes. Alors quand je dis que je vais m'attacher à dévoiler la performativité sociale du troc, il y a un enjeu théorique assez fort, puisque vous savez que les anthropologues ont très longtemps considéré que le troc est en fait désenchâssé des relations sociales et ne s'ancre pas dans un tissu social dense par comparaison aux dons qui seraient typiquement le genre de transaction qui s'instaure entre des personnes qui sont liées par une relation sociale pérenne. Dans cette perspective, le troc est envisagé comme une figure non monétaire de l'échange marchand et donc dénuée de caractéristiques de propriété sociale. Cette perspective, elle est liée au mythe du troc qui caractérise et qui traverse la pensée occidentale, même dans la science économique, et qui veut que le troc soit à l'origine de l'invention du fait monétaire. Des données ethnographiques et historiques ont montré qu'il s'agit bien d'un mythe et qu'il ne s'agit pas de l'histoire véritable, c'est en réalité faux. Mais ce mythe continue néanmoins de s'immiscer non seulement dans les théories économiques, mais aussi, dans une certaine mesure, il perdure dans le discours des anthropologues qui continuent d'envisager le troc comme étant une figure non monétaire de l'échange marchand qui se situe le plus souvent donc en amont de l'émergence des transactions monétaires. Alors ici, cette perspective, elle était déjà tenue par Marx, elle est reprise par Simmel, elle est reprise aussi par Mauss, qui contraste le troc avec le don. Elle se poursuit dans les textes classiques de l'anthropologie économique pendant tout le XXe siècle. Polanyi la reprend, Claude Lévi-Strauss aussi. Ici, je ne vais pas reprendre chacune des citations, mais c'est pour vous montrer concrètement les grands noms, les grands auteurs qui ont repris cette perspective du troc comme étant désenchâtré des liens sociaux. On retrouve Marshall Salins, un peu plus tard Chris Gregory, Arjuna Padurai, et puis très récemment David Graeber, qui s'est pourtant attaché à vraiment démonter le mythe du troc. Il continue, il l'affirme néanmoins dans son magistral œuvre sur la dette, il affirme le troc prend ordinairement place entre des étrangers, voire des ennemis. Et pourtant, derrière tous ces discours se cache ou existe un ouvrage majeur sur le troc, qui est celui de Colin Humphrey et Stephen Jones, publié en 1992, qui parle donc du troc des valeurs et qui montre que le troc s'enracine en fait dans certains types de relations sociales assez spécifiques, et que le troc aussi vers une expression oblative ou marchande selon le contexte social et culturel. Alors, ce livre, c'est un des seuls livres en anthropologie sur le troc. C'est un recueil d'articles provenant de terrains ethnographiques épars qui documentent vraiment des relations de troc et qui montrent qu'en fait, derrière ces transactions, se tissent des relations sociales pérennes. Les conclusions auxquelles Colin Humphrey et Stephen Jones sont arrivés ont été reçues par les anthropologues. Elles n'ont pas été critiquées ni déniées, mais néanmoins, dans la littérature, on continue de voir, même depuis que cet ouvrage a été publié, on continue de lire des allusions au troc comme étant une figure essentiellement marchande. « Et de ce fait, puisque les anthropologues ont pris donc pour acquis que le troc constitue une figure d'échange désenchâssée des relations sociales, ils ne sont pas parvenus, ils n'ont d'ailleurs pas fait beaucoup d'efforts pour y parvenir, à rendre compte des relations, des interactions concrètes en chair et en os qui se situent derrière cette figure de transaction. D'ailleurs, en anthropologie, le débat s'articule, est polarisé entre des études sur le don et des études sur la marchandise, et le troc ne constitue pas un concept à part entière. Si vous consultez des manuels d'anthropologie, des dictionnaires, il y a toujours une entrée pour le troc, très souvent une entrée échange ou marchandise, une entrée pour le don et une entrée pour échange ou marchandise, mais le troc passe souvent inaperçu. Alors j'ai quand même trouvé ici, dans un ouvrage anglais, une définition du troc, qui est une définition en fait très classique qui correspond au langage commun et qui veut que le troc est un échange donc sans l'usage de la monnaie. Alors certains considèrent que la monnaie ne doit pas même intervenir comme étalon de mesure, d'autres considèrent qu'elle doit juste être absente matériellement. Ça fait l'objet de désaccords, mais ce qui est partagé, c'est cette perspective du troc comme étant définie par l'absence de monnaie. Alors ici, je vais faire l'exercice dans mon exposé de dévier cette attention de l'absence de monnaie pour essayer de mettre en lumière le régime de valeurs en fait qui est construit par ces relations de troc, dès lors que les partenaires ne se plient pas aux prix nationaux et aux prix du marché. Plutôt que de partir de l'absence de monnaie, on va essayer de comprendre quel est le régime de valeur qui est mis en avant et pratiqué par les intervenants. Et ce faisant, on va parvenir à percevoir quelle est donc cette performativité sociale du troc et quel est l'effet que ces transactions peuvent avoir sur les relations sociales qui unissent les partenaires. On verra que, en explorant donc ce régime de valeur du cambio, on verra que dans ce cas, le troc inclut également des êtres non humains dans cette sphère de la sociabilité du troc. Et ce sont essentiellement ces non-humains qui sont célébrés donc par les fêtes patronales dont les foires font partie. Dans un dernier point, je vais aussi traiter d'un nouveau type de foire qui a émergé à la fin du XXe siècle, et c'est là que je vais rejoindre les préoccupations du professeur d'Escola dans ce séminaire au regard des formes d'hybridation, et on va voir comment des ONG et des municipalités ont mis en marche un mouvement de patrimonialisation du troc et des foires, et ce faisant, on modifié en fait la pratique, la manière dont ce troc est non seulement mis en pratique, mais il propose aussi de nouvelles représentations du troc, et on va s'attacher à comparer donc ces différentes figures d'échange. Alors, avant de commencer, je voulais vous rendre compte d'un exemple typique de troc pour que vous ayez une image en tête de ce en quoi constituent concrètement ces échanges. Donc, le cambio, c'est toujours l'échange d'un cultivateur et d'un éleveur. Un éleveur qui apporte donc de la viande des hautes terres et un cultivateur qui apporte des céréales, essentiellement du maïs, des basses terres. Et ici, donc, on a cet exemple d'un cultivateur qui propose un échantillon de grains de maïs dans ses mains et les propose à une éleveuse qui, en lui disant « je l'emporte, celui-là pour ton maïs », l'éleveuse répond « va chercher du maïs ». Le cultivateur « évidemment, je vais te l'amener rempli, le sac de maïs. Donnez-moi un agneau. Nous allons apporter le maïs, madame ». L'éleveuse, allez chercher le maïs, va le chercher, amène-le et je te donne l'agneau. Le cultivateur, montre-moi l'agneau. Il est gros, plus ou moins. L'éleveuse, c'est un agneau. Ah, ceux-là. Ah, eux, non. Comme si tes maïs étaient grands. Vous devez me donner un sac rempli et un petit peu plus. Les agneaux sont gros, ils sont grands. Le cultivateur répond, maintenant, si vous voulez du maïs grillé, j'en ai aussi. Et l'éleveuse, non, moi je veux du maïs blanc. Le cultivateur, seulement du blanc ? Allons-y, je vous offrirai quelques fruits en plus. Bien sûr, allons-y, je vous offrirai des fruits. Comme ça, l'an prochain, nous nous connaîtrons. Et donc, on voit directement, évidemment, à la fin de cet échange, qu'il y a un désir d'engager une certaine forme de relation qui doit s'inscrire dans la durée. On voit aussi, et je vais revenir là-dessus au long de la présentation, que au-delà des deux individus qui se rencontrent, il y a des identités économiques qui sont entendues comme allant de soi, celles des cultivateurs et des éleveurs, notamment quand elle dit « c'est un agneau à cela ». Elle ne s'en prend pas seulement à son interlocuteur, mais à tout un groupe en fait, de personnes qui sont les cultivateurs. Donc voilà ce petit exemple. Ici, je viens donc de vous introduire à cette notion de cambio et de soulever les questions que j'aimerais poser un peu longuement, mais après je vais passer sur une introduction très rapide ici du contexte ethnographique dans lequel ces foires prennent place, donc la Puna de Jujuy au nord de l'Argentine. On va ensuite recentrer le regard sur les mesures des ancêtres qui régissent ces cambios pour essayer de comprendre comment, en appliquant ces mesures, ce sont des valeurs matérielles et des vertus subjectives qui sont en fait mesurées. Et puis, dans un quatrième point, on verra comment, en composant une foire, feria, qui fait partie d'une fête, d'une célébration patronale, ces trocs participent de la régénération socio-cosmologique. Et puis, on abordera la patrimonialisation du cambio. Alors, cette recherche, je l'ai commencée. Je vous dis deux petits mots sur la méthodologie. Ma méthodologie correspond en fait à une ethnographie assez classique. J'ai habité dans les Andes d'Argentine pendant 6 à 8 ans, période pendant laquelle je faisais ma thèse de doctorat à partir de 2006. Et puis après, j'ai continué à étudier le troc, ces foires, pendant différentes études postdoctorales, où j'ai aussi traité d'autres sujets, mais périodiquement, je revenais vers cette idée des foires de troc. Et puis plus récemment, je suis encore revenue donc, sur cette étude pour la préparation d'un livre dont je me permets de faire la promotion, qui va paraître en mai, la performativité sociale des foires de troc chez Bergen Books. Donc voilà, c'est ce que les matériaux que je vous propose se basent sur des données ethnographiques sur la longue durée. Donc nous voilà arrivés dans cette région du nord de l'Argentine. Moi, j'ai travaillé là où j'habitais, c'était vraiment dans les hautes terres de Jujuy, qui est la province située tout à fait à l'extrême nord du pays, ce qui a son importance parce que lors des foires de troc se réunissaient des paysans qui provenait également de la Bolivie et donc on se trouve dans une situation transfrontalière avec des échanges économiques qui se réalisent le plus souvent avec des paysans qui viennent de pays différents. Alors le paysage ethnique dans cette région de l'Argentine est assez spécifique au regard d'autres régions de l'Argentine qui se caractérisent ou qui s'identifient en tout cas comme étant des descendants d'Espagnols. Ici en Argentine, la plupart des paysans se reconnaissent comme appartenant à l'ethnie Coya. Alors l'ethnie Coya, elle a été reconnue officiellement par le gouvernement argentin en 1994 avec le changement de la Constitution et la reconnaissance de la préexistence de peuples indigènes sur le territoire avant l'arrivée des colons. Et donc ces personnes qui se reconnaissent comme appartenant à l'ethnie Coya se différencient des créoles qui sont éventuellement qui sont des descendants donc des colons et qui peuvent avoir des ancêtres indigènes mais ne s'identifient pas à eux premièrement et donc se reconnaissent comme créoles et ceux-ci se différencient à leur tour de ceux qui sont qualifiés de blancs et qui sont ici des descendants directs d'Européens puisque l'Argentine a été successivement habitée par des mouvements de migrants venus de l'Europe entière, essentiellement de l'Espagnol et de l'Italie. Donc dans cette région du Nord, on trouve essentiellement des indigènes à partir approximativement 80% de la population et des créoles, les blancs étant vraiment très très peu représentés. Mais au-delà de ces catégories qui sont les catégories donc, désormais reconnues par l'État, ce profil des interactions en fait beaucoup plus complexe, puisque ce qualificatif de Koya, en fait, souvent, pendant longtemps, était utilisé comme une insulte dénigrante envers les indigènes de la région. Et c'est seulement très récemment donc, que leur existence formelle et administrative a été reconnue. Mais dans les interactions quotidiennes, ces paysans n'utilisent pas eux-mêmes en fait, le qualificatif de Koya. Ils s'identifient plutôt sur base de leur appartenance à des communautés économico-écologiques en fonction du fait qu'ils habitent dans les hautes terres de la Puna, la Puna étant l'extension de l'altiplano bolivien sur le territoire argentin, ou qu'ils habitent les basses terres de la Quebrada. Et donc ce sont des puneños qui sont éleveurs, puisque dans ces hautes terres, avec ces grands espaces, l'élevage est tout à fait propice, tandis que le climat ne permet pas de culture de végétaux, par contraste avec les habitants de la Quebrada, les quebradeños, qui habitent dans des zones escarpées dans lesquelles l'élevage n'est pas du tout propice. Donc, on retrouve ici un type d'économie qui a été décrit amplement dans les régions andines et que John Murray, comme historien, avait déjà identifié comme révélant des stratégies d'économie à étage, où on a vraiment des zones écologiques qui se spécialisent dans certaines denrées et puis ensuite échangent leurs biens les uns avec les autres. Alors, il se fait qu'ici, dans la région qui se regroupe autour de ces foires de troc, les cultivateurs sont boliviens, tandis que les éleveurs sont argentins. Il y a aussi des vallées argentines, mais les relations de troc entre habitants des vallées et habitants des hautes terres en Argentine ont été désintégrées, car les cultivateurs des basses terres vendent en fait la plupart de leurs produits au marché urbain et vers la capitale, et donc ces réseaux-là sont désintégrés, et ce que moi j'ai pu observer donc unifie ces pays, ces éleveurs argentins et les cultivateurs boliviens. Et donc, je vous le disais, cette spécialisation dans la production a requis pendant des années, des siècles et des siècles, un échange et produit une interdépendance entre les hautes terres et les basses terres qui devaient s'échanger leurs biens pour pouvoir composer un menu viable pour l'être humain, composé de protéines animales et d'hydrocarbures. Et donc il y avait une interdépendance fondamentale entre les hautes terres et les basses terres qui est très bien verbalisée ici. C'est un extrait d'une réunion de communauté dans laquelle un des leaders disait « La vallée a toujours eu besoin des produits de la Puna pour vivre et la Puna a aussi besoin de la vallée. Nous partageons la même culture, la même tradition et les mêmes coutumes. » Alors maintenant, bien entendu, ces paysans sont aussi intégrés dans les réseaux marchands. Ils se vendent une partie de leur récolte et de leur viande au marché urbain, si bien que la quantité de biens qui est conservée pour le troc est devenue résiduelle pour les éleveurs. Il s'agit d'approximativement 10% de leur récolte qui est encore vouée à ces réseaux de troc. Alors les grandes caravanes évoquées par le professeur de Scola ne sont plus en vigueur dans cette région. Elles ont disparu au milieu du XXe siècle. Elles sont encore en mémoire des anciens, mais on ne les pratique plus. Il y a encore des individus isolés qui se déplacent de village en village et réalisent ces échanges. Mais la plupart des échanges par cambio se tiennent désormais donc lors des foires dont il est question ici dans ma présentation. Alors, j'ai oublié de vous dire que, au-delà de cette polarisation entre puneños et quebradeños, il y a quand même une forme d'unité qui est reconnue à travers ces pratiques agricoles, des pratiques qu'ils connaissent mutuellement et un lien à la terre très fort qui est verbalisé sous le rapport à la Pachamama, qui est la déité principale dans cette région qui est un être tellurique et donc qui est la force qui anime et qui permet la vitalité sur Terre. Et ça, c'est important, elle est aussi reconnue comme étant l'ancêtre primordial de tous les hommes. Et donc, ici, on voit quand même que, malgré cette polarité entre Puneños et Quebradeños, il y a certains points sur lesquels ils se reconnaissent une identité partagée. Alors, j'en viens donc au cambio. Cambio qui se réalise sur base des medidas de los abuelos, donc les mesures des ancêtres, et qui sont des mesures qui sont donc, comme ce terme l'indique, tenues pour avoir été héritées des anciens. Ça, c'est véritable, on le voit, la transmission des anciens vers les plus jeunes, mais aussi des ancêtres et des ancêtres les plus lointains, comme la Pachamama, telle que l'annonce ici, Telesforo Benites, qui nous dit les ancêtres, tatarabuelos, c'est ceux qui se trouvent derrière les abuelos, donc ce sont les ancêtres, nous ont laissé ces mesures telles quelles. Eux parlaient avec la terre-mère. Et donc, ces mesures des ancêtres qui sont appliquées donc, dans le cadre du cambio, elles portent sur un type de bien précis qui circule en sens contraire entre les étages écologiques dont je vous ai parlé. Et donc ces mesures, en fait, elles posent déjà une restriction sur la nature des denrées sur lesquelles porte le cambio. Et ici, j'ai repris une phrase, deux phrases qui m'ont été dites par Griselda et qui résument en fait complètement l'intérêt de la foire, l'intérêt de la feria et son objectif. Elle nous dit « Il s'agit avant tout d'un échange de ce que nous avons pour ce que eux n'ont pas. Eux n'ont pas la viande, nous leur apportons de la viande, nous n'avons pas de farine. » Elle entend de la farine de maïs, ni de maïs. Et donc, dans la représentation que les participants pensent en fond, cette foire constitue en fait un échange réciproque de viande et de maïs entre ces deux étages écologiques. Alors, en réalité, la Puna est identifiée par les géographes, par des critères très spécifiques, comme démarrant à 3500 mètres d'altitude et au-dessus, tandis que la Quebrada se déploie en dessous de 2500 mètres. Donc, entre les deux se loge, en vérité, une zone intermédiaire, qui est la zone dans laquelle poussent essentiellement des tubercules et dans laquelle un élevage mineur peut être réalisé, mais c'est à travers la mise en circulation de tubercules que cette zone intermédiaire est représentée. Mais dans les discours des protagonistes, cette zone intermédiaire est identifiée comme agriculteur et donc plutôt comme quebradeños. Vous l'avez vu dans l'extrait que j'ai proposé, dans l'exemple du cambio. En fait, cette zone intermédiaire, elle n'est pas représentée dans les interactions qui parlent toujours d'une dualité entre vous, les éleveurs, nous, les agriculteurs. Et c'est vraiment ces deux entités sociales de quebradeños et puneños qui sont données à voir par ces interactions de cambio, au-delà de l'existence donc, de toute cette grande diversité de tubercules qui s'échangent aussi par le cambio. Et comme vous vous en doutez, les éleveurs des hautes terres apportent sur la scène de la foire de la viande, des cuirs, de la graisse, aussi de la laine, tandis que les cultivateurs des basses terres apportent essentiellement du maïs. Ils produisent aussi une grande variété de fruits, puis des herbes médicinales. Il y a aussi d'autres biens secondaires, mais les biens emblématiques, si on veut, sont le maïs et les fruits, les pommes de terre et la viande. Alors, des foires comme ça, il y en a, je vous dis un petit mot pour que vous vous imaginiez où se déroule concrètement le cambio. Il y en a très régulièrement. Elles se condensent essentiellement après la récolte et à la saison sèche pour essayer d'échanger des aliments séchés pour arriver jusqu'à la prochaine récolte. Donc, il y a des moments où il y a plus de foires que d'autres. Ces foires, elles sont articulées donc sur le calendrier religieux. Elles durent 2 à 3 jours, parfois 8 jours dans les cas des foires les plus importantes. Et dans le cas de ces foires-là, c'est vraiment toute la région du sud des Andes qui est concernée par la foire. On peut voir des participants arriver depuis La Paz au nord et depuis Salta au sud. Donc il y a des foires qui réunissent vraiment des centaines et des centaines de participants et concernent une zone géographique très étendue, tandis que d'autres d'autres foires sont beaucoup plus restreintes. Elles rassemblent quelques dizaines de participants et sont uniquement centrées sur une micro-région. Alors, c'est bien... Ces biens qui sont proposés en échange sur la scène de la foire, je vous ai dit, ils sont emblématiques de régions, de zones écologiques et économiques, et donc ils représentent aussi ces entités, ces communautés de Quebradeños et Puneños sur la scène de la foire. Mais ils représentent aussi les qualités de leurs producteurs et à travers la qualité des produits, c'est aussi les vertus du paysan qui les propose en échange, qui sont données à voir. Et ces vertus, ces qualités d'être un bon paysan, un paysan qui a su prendre soin de ses animaux, prendre soin de ses végétaux, qui a donc dédié beaucoup de force en fait et de courage pour pouvoir cultiver et récolter des biens de grande qualité, eh bien... Cette qualité donc, du paysan, elle se mesure sur la scène de la foire essentiellement à travers une idée de taille, de dimension, la dimension des produits agricoles qui sont proposés à l'échange. Donc les grands maïs, les grandes pommes de terre, les grands animaux sont ceux qui sont appréciés. On le voyait aussi dans l'extrait qu'on a lu ensemble au début de mon intervention. Il demandait si les moutons étaient grands, ils étaient gros. Elle a rétorqué, et tes maïs sont-ils grands? Et donc cette grandeur du produit agricole, elle reflète, c'est une forme d'index de la valeur, de la vertu du paysan en tant qu'étant un bon paysan capable de proposer en échange des produits qui sont appréciés, des produits de grande valeur. Et d'ailleurs, ces produits emblématiques, je disais, le caractère emblématique de ces produits se marque par le fait qu'ils sont utilisés comme métonymie pour parler de leurs producteurs. Et on va dire, attention, la viande arrive, ça veut dire qu'en fait, les éleveurs sont en fait en train d'arriver. Si on dit, ah oui, mais si les fruits n'y vont pas, il n'y aura pas de foire, ça veut dire si les quebradeños ne sont pas présents, il n'y aura pas de foire. Et donc, on peut utiliser le produit pour renvoyer à la personne. On voit comme les deux sont vraiment entremêlés. Alors, en plus de circonscrire donc la palette de produits qu'il est capable d'échanger, les mesures des ancêtres posent des équivalents sur la quantité d'un produit pour en obtenir un autre. Et typiquement, un mouton ouvert, encore de viande fraîche, équivaut à 2 caisses de fruits. Un sac rempli de pommes de terre équivaut à 1 sac rempli d'épis de maïs. On a un mouton séché, donc de viande desséchée, équivaut à une arroba qui équivaut entre 11 et 13 kilos, c'est assez approximatif. Ou ici, on a un contenu équivaut à son contenant. Ici, c'est donc une poterie en argile, mais ça peut aussi être un panier en osier. Et donc, quel que soit le contenant, ça peut être des grains de maïs. Ici, on a des betteraves, ça peut être de la viande séchée. Quel que soit le contenu, il équivaut à son contenant. Alors, ces équivalences, je le précise tout de suite, elles ne correspondent pas au prix du marché, au prix en vigueur sur les marchés urbains. Le peso est une monnaie nationale extrêmement fluctuante, tandis que ces mesures des ancêtres ne le sont pas. Et donc, il n'y a pas d'arrimage de ces équivalences des ancêtres au prix qui prévaut sur le marché urbain. Les personnes qui souhaitent le faire ou qui revendiquent d'établir les équivalences de l'échange en fonction du prix des biens sur le marché urbain sont disqualifiées, sont envisagées comme étant à la recherche du négoce, du commerce, plutôt que étant dédiées à l'application des mesures des ancêtres. Ici, on voit ça tout à fait clairement dans cet extrait des mots tenus par Lola, qui était ma voisine. Donc, quand j'habitais là-bas à Javi, elle va revenir plusieurs fois dans l'exposé. Elle nous dit, bien entendu, maintenant... On fait souvent la somme pour savoir combien les produits valent. Quand elle dit faire la somme, elle se réfère à faire la somme des prix en vigueur sur le marché. Avant, nous ne faisions pas de somme. Jadis, nous ne le faisions pas. C'est pour ça, comme je te dis, nous donnions 300 épis de maïs pour une jambe de lama, ou 250. Ça, c'était un cambio qui n'était pas un négoce. Et c'était un cambio que nous ont légué les grands-parents, les aînés et les ancêtres. Et donc ici, elle compare donc ce qui est véritablement le cambio et qui met en pratique ces mesures des ancêtres par rapport à l'idée de négoce qui est, réfère à un arrimage au prix monétaire. Alors si ce cambio ne se réfère pas, si ces équivalences des ancêtres ne se réfèrent pas au prix du marché, il y a d'autres critères qui sont ici mis en avant et qui permettent de négocier en fait ces équivalences des ancêtres. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a une marge de négociation qui est très large. Comment établir que ce pot, cette poterie est pleine de betteraves? On aurait pu en enlever une ou en rajouter trois pour accepter en fait qu'elle est effectivement pleine. Et donc ces mesures des ancêtres, en fait, elles fixent un point de référence à partir duquel les participants vont s'engager dans une négociation. Et ici, même Lola aussi le dit, on donne 300 épis ou 250. Bon, il y a quand même une fourchette qui est assez ample. Eh bien, il y a toute une série de critères donc, qui permettent de tirer parti de cette négociation. C'est non seulement la distance qui a été parcourue par chacun des partenaires. Celui qui a dû faire la plus grande distance donc, va pouvoir exiger un taux qui lui convient. Il y a les conditions écologiques qui ont prévalu pendant la récolte. Ceux qui ont pâti de mauvaises circonstances vont aussi pouvoir le faire valoir. Il y a la qualité, évidemment, des biens qui sont proposés en échange. Il y a la qualité aussi de la relation sociale qui unit les partenaires. Et le prix sur le marché peut intervenir, mais comme étant seulement un des critères parmi les autres et disant, mais écoute, tu sais, mes pommes de terre, elles valent plein sur le marché, donc fais un petit geste, montre-toi généreux puisqu'on réalise cet échange. Et donc, il y a toute une palette de critères qui permettent finalement d'aboutir à une équivalence précise, mais d'une manière plus générale, ces medidas de los abuelos, elles renvoient à l'effort qui a été fourni par les paysans pour produire ces biens agricoles, et c'est cela qu'ils mettent en valeur dans ces négociations. Ils disent « oui, mais rends-toi compte de l'effort que j'ai dû réaliser pour produire ceci ou cela ». Et donc c'est aussi une négociation qui se fait sur des styles de vie, sur des qualités et des vertus en tant que paysan courageux qui travaille dans ces hautes terres de la Puna ou de la Quebrada. Ainsi, un participant de la foire de Sainte-Catherine me disait « La récolte requiert également des sacrifices. S'il gèle, les plantes sont abîmées. S'il neige dans les campagnes, les moutons meurent de faim. Cette relation se manifeste entre ceux qui réalisent le cambio. Tout est sacrifice. » Ou une autre personne qui se voyait proposer une équivalence répond « Non, non, ça c'est très peu, nous souffrons tellement dans les campagnes ». Et donc derrière ces équivalences, il y a une dimension de sacrifice en fait qui est mesurée de part et d'autre, si bien que les personnes se sentent personnellement dénigrées lorsque un partenaire refuse d'appliquer une équivalence qu'ils estiment comme étant comme reflétant la valeur de leur produit. En fait, derrière la valeur de leur produit, c'est leur valeur à eux qui se cache, et donc les paysans s'offensent lorsque un partenaire potentiel n'accepte pas de donner une valeur convenable, décente, aux produits qui sont proposés. Ici, je reprends un extrait des propos tenus par Mirta, qui avait été un éleveur avait proposé d'établir un échange qu'elle trouvait tout à fait, enfin une équivalence qu'elle trouvait ridicule, et elle lui répond, nous, donc Mirta est une éleveuse puisqu'elle répond à un éleveur, nous ça nous demande de l'effort, pardon, nous ça nous demande de l'effort, vous ça ne vous coûte rien, vous dites qu'on ne fait que ramasser des fruits par terre puisqu'elle proposait beaucoup de fruits, Comme si Dieu faisait tout et que nous ne faisions rien. Oui, c'est ça, à la prochaine. Nous allons continuer à ramasser. Et donc les éleveurs disent que les agriculteurs, en fait, ils font que ramasser des choses par terre. Les cultivateurs, ils disent que les agriculteurs, en fait, ils sont juste assis, ils regardent le mouton, mais qu'ils ne doivent pas faire grand-chose. Et il y a aussi une forme de querelle entre les deux parties pour voir qui produit le plus d'efforts pour fournir ses biens. En plus de référer et d'indexer des valeurs subjectives qui ont été données à voir dans les champs à travers le travail agricole, la réalisation du cambio elle-même est aussi connotée moralement et appréciée pour produire des sujets de vertu. Et un paysan qui accepte d'appliquer ses valeurs des ancêtres, qui accepte d'échanger ses biens avec ses homologues d'un autre étage écologique est aussi apprécié. Donc la transaction en tant que telle produit aussi en fait des valeurs morales. C'est pas seulement parce qu'elle réfère à des pratiques agricoles passées, mais c'est aussi comme le cambio est aussi une pratique de vertu en tant que telle. Et ici, on retrouve un fait qui doit être mis en contraste avec la littérature existante sur le troc, où le troc est souvent regardé comme étant justement une figure transactionnelle dans laquelle chacune des parties veut défendre son intérêt âprement. Hein. Chez Salins, le troc est situé dans la réciprocité négative, par exemple, par contraste avec le partage. Ici, il y a une valeur morale qui est posée sur ce cambio, et réaliser des bons cambios, des cambios généreux, ça permet d'être reconnu comme étant vraiment une personne de vertu, une bonne personne. Et ici, la théorie qui a été avancée son œuvre magistrale, donc l'œuvre de Nancy Munn, je parle, In the Fame of Gawa, est tout à fait pertinente en fait pour étudier ces cambios. Donc dans ce livre, In the Fame of Gawa, Munn a étudié essentiellement la kula, mais elle montre d'abord que le don est un geste fondamental pour être reconnu comme étant une personne de vertu, mais aussi pour étendre cette subjectivité dans l'espace et dans le temps, au-delà de la présence ponctuelle de l'individu. Et notamment quand on fait don de nourriture à des hôtes, après ils rentrent chez eux et ils diffusent donc notre identité, notre subjectivité vertueuse. Après, elle explique que la kula constitue une pratique encore plus complexe et qui permet d'étendre la subjectivité vertueuse encore plus loin, vers des contrées encore plus lointaines, dans l'espace et dans le temps. Eh bien, je pense qu'ici, ce cambio est comparable à ces dons examinés par Nancy Munn et à la kula, dans le sens qu'ils permettent aussi de composer des sujets de vertu et de produire une extension spatio-temporelle de ces subjectivités, puisque après la foire, tous les paysans rentrent dans leur contrée, c'est parfois des contrées très lointaines, des centaines de kilomètres qui les dépassent, et ils acquièrent comme ça un certain renom d'être des bons paysans ou des personnes généreuses, capables et bienveillants envers leurs partenaires des zones écologiques complémentaires. Donc voilà, maintenant, je vous ai expliqué quel était l'effet du cambio sur des identités subjectives, personnelles. Je vais maintenant m'attacher à vous montrer quel est l'effet du cambio sur les identités collectives et de quelle manière le cambio permet aussi de produire des valeurs collectives. Et on va voir que donc ces valeurs collectives embrassent non seulement la sphère de la sociabilité humaine, mais aussi celle des êtres non humains. Alors, pour faire ça, je vais commencer par vous décrire en deux mots le cadre social donc, qui se situe derrière le cambio et qui est assez particulier parce que le cambio se tient le plus souvent entre des personnes qui ne se connaissent pas, ou qui se sont peut-être croisés de loin, mais qui ne se connaissent pas personnellement. Et pourtant, il y a toujours un horizon de relations dense et chaleureuse qui se situe dans l'interaction. Et on l'a vu très clairement dans l'extrait que je vous ai montré en introduction. On a une rencontre de deux personnes qui ne se connaissent pas, mais l'issue de l'échange se termine sur une note de pérennité sociale. Et comme ça, les participants... se représentent les relations de cambio comme étant fondées initialement sur la méconnaissance. Hein, le cambio s'instaure entre desconocidos qui vont se rencontrer, se connaître, devenir conocidos. S'ils se rencontrent plusieurs fois et qu'ils se retrouvent d'année en année, ils vont, on l'espère, devenir amigos. Et s'il y a vraiment une connivence et une grande complicité qui s'instaure, la relation idéale qui doit prévaloir entre ces partenaires de cambio, c'est celle de compadre, compère, qui est une forme de parenté reconnue et qualifiée dans la littérature comme étant une parenté rituelle. Alors je ne suis pas convaincue que ce terme-là soit le plus à même de décrire cette relation, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, donc... pour le profit de mon exposé, je vais parler aussi ici de parenté rituelle. Mais donc, cette parenté rituelle ne s'accomplit plus que dans de rares exceptions à l'heure actuelle. Les partenaires disent que dans le passé, elle était plus diffuse, mais elle continue en tout cas d'exister comme idéal. Et donc, on voit que derrière ces échanges de cambio se situe un idéal de relation, de parenté qui se tisserait entre ces quebradeños et ces puneños à travers les échanges de leurs biens. Et donc, quand je dis que le cambio a effectivement une forme de performativité sociale et tisse certains types de relations sociales, eh bien, on voit ici que ces relations sociales se déclinent sur le mode de la parenté. Et c'est comme ça qu'elle est verbalisée par certains participants. Ici, j'ai repris de nouveau une phrase de Lola s'apprêtait à réaliser un cambio avec une inconnue, et dans le cours de l'interaction, elles s'interrogent d'où elles viennent, ce qu'elles font, elles en viennent à s'interroger sur leur nom de famille, et il se fait que la grand-mère de Lola partageait le nom de famille de sa partenaire, et donc elle nous dit « ma grand-mère aussi était abracaité, donc tous les abracaités sont des parents, ici nous sommes presque tous parents ». Et donc elle conclut ici sur la scène de la foire « nous sommes presque tous parents », alors que en Amérique latine, les noms de famille, il y a des noms de famille qui sont très diffusés, et deux Ramos ne vont jamais conclure qu'ils ont nécessairement des ancêtres communs, parce qu'il y a comme ça quelques noms de famille qui circulent partout. J'ai dit Ramos, mais il y en a, il y a vraiment les Ramirez aussi, il y a quelques noms de famille qui se retrouvent partout, et ça n'invite pas nécessairement les inconnus à conclure qu'ils sont parents, comme le fait Lola ici, dans le cadre de la foire. Alors, cette idée de parenté qui est ici verbalisée, elle se retrouve ici dans la pratique à travers le cambio par cette circulation réciproque d'aliments et cette interdépendance alimentaire qui fait que les partenaires de cambio se nourrissent mutuellement et composent leur garde-manger d'aliments identiques et donc finissent par composer des plats et des menus qui sont composés fondamentalement des mêmes biens qui sont le produit du travail de chacun des paysans dans leur zone écologique. Et il a été montré, notamment par Marie Weissmantel, que cette pratique d'alimentation, de nourrir, est fondamentale dans la manière dont les paysans andins se représentent la composition des liens de parenté, et d'ailleurs même souvent plus importante, plus significative que la sexualité ou la transmission génétique telle que nous la représentons. Ainsi, Marie Weissmantel dit « Feeding rather than insemination and birth is the act that determines who a child's parents are and so gives it a social identity ». Donc elle nous dit « nourrir plus que l'insémination ou la naissance est l'acte qui détermine qui sont les parents d'un enfant ». l'enfant et lui donne donc son identité sociale. Et donc on voit ici aussi qu'à travers ces pratiques de nourrissement mutuel, ce sont des corps semblables qui sont produits de part et d'autre des zones écologiques. Et donc ce cambio crée aussi une forme d'identité entre les partenaires en vertu de cette commensalité généralisée. Et de plus, un autre élément qui fait communauté à travers le cambio, c'est cette référence constante aux mesures des ancêtres et aux normes des ancêtres qui suggèrent implicitement qu'il y a des ancêtres partagés entre les deux participants et qui partagent donc une forme d'ascendance vers ces ancêtres auxquels ils reconnaissent autorité pour déterminer quelles sont les valeurs qu'ils doivent donner à leur bien. Le terme de las medidas de los abuelos le signifie également. Et donc on voit comment à travers donc cette scène d'échange se tisse une forme d'identité entre tous les partenaires qui y prennent place. Non seulement cette identité et cette se donner à voir des communautés économiques et écologiques que sont les quebradeños et les puneños, mais aussi des relations d'interdépendance entre ces deux communautés et le tracé en fait d'une forme d'entité ethnique qui les englobe en vertu d'une descendance envers des ancêtres communs et de ces relations de parenté rituelle ou de nourrissage réciproque. Alors ici, j'ai repris un extrait d'un leader politique d'une communauté d'agriculteurs. C'est un discours qu'il a donné lors d'une foire et dans laquelle on voit vraiment comment émerge une entité sociale à travers ces rencontres de troc, une entité sociale donc qui regroupe les puneños et les quebradeños. Il nous dit donc « Je viens en représentation des producteurs du sud de Bolivie. C'est une tradition, année après année, nous faisons l'effort de nous déplacer d'un lieu à un autre, y compris le transfert à Javi pour, avec la finalité de fraterniser et poursuivre ce que nos ancêtres ont réalisé, le troc, le cambio et la vente de produits que nous produisons toute l'année pour aller les distribuer. Depuis ces temps-là au temps présent, je vois que la foire devient un peu plus petite et cela ne nous permet peut-être plus de venir. Mais si nous continuons nous-mêmes, donc les cultivateurs boliviens, à faire ces sacrifices pour venir à la recherche continuelle de l'affection et la confraternité qui nous unit Bolivie et Argentine. La seule chose qui nous différencie est une simple ligne qui distingue que nous soyons boliviens, que nous soyons argentins. Mais en considérant les coutumes traditionnelles, nous sommes les mêmes. Comme quelqu'un disait, Bolivie et Argentine, nous sommes toujours unis, et ce qui nous unit, ce sont nos choses, ce qui constitue la fiesta, la Pâque, Ajavi. Donc cette fiesta, cette Pâque à Javi, en fait, in fine, c'est une célébration religieuse, la célébration ici du Christ, ça peut être une célébration patronale, donc d'un saint local, c'est la célébration d'entités religieuses qui sont donc communes aussi à ces paysans venant des deux parties, des deux zones écologiques. En se retrouvant sur la scène des échanges et en produisant une scène d'échange effervescente à travers des échanges qui satisfont les deux partenaires, ces échanges par cambio doivent produire la joie, l'allégria qui permet véritablement d'honorer ces saints patrons, de réaliser ces fêtes patronales. Et donc, on voit dans cet enchâssement de la feria dans la fiesta, on voit que les entités surnaturelles sont aussi conviées en fait dans ce cercle de la sociabilité du cambio. Et c'est en fait à eux que s'adresse le contentement qui est produit par l'échange, c'est à ces entités qu'il s'adresse, et ces entités sont tenues pour être réjouies par le contentement que l'établissement et le respect des mesures des ancêtres procurent chez chacun des partenaires lorsque un échange a été réalisé dans les règles de l'art, et donc à respecter cette équité qui est incarnée par les équivalences des ancêtres. À l'inverse, lorsque les partenaires rechignent à appliquer ces équivalences, ou qu'ils se montrent égoïstes ou pingres, ou qu'ils essayent par différentes tactiques d'avoir et de comment dire, l'engagno de tromper, exactement, de tromper leur partenaire, eh bien, ça susciterait le mécontentement aussi des entités surnaturelles. Ici, par exemple, c'est Hilda qui disait à un de ses partenaires « Mais pourquoi il n'y a que 10 kilos alors que tu devais m'en donner 12 ? Allez, va rechercher du maïs, ne pleure pas, Dieu le Père va se fâcher, il va tonner. » Et elle a dit, elle n'a pas dit Dieu, Dios Padre, elle a dit Dios Tata, Tata qui est un qualificatif andin qui réfère à une idée de parenté avec beaucoup de respect. Et puis elle associe Dieu au tonnement et aux éclairs qui sont des entités et des puissances de l'environnement et des puissances telluriques. Et donc elle dit, si tu ne respectes pas ces 12 kilos qui correspondent à la roba qui est l'équivalence des abuelos, eh bien... nos ancêtres ainsi que les entités telluriques ne vont pas être satisfaites. Et donc on voit ici qu'il y a vraiment un lien et une participation morale et active d'entités surnaturelles sur la scène de la foire. Alors j'ai omis de vous dire, et c'est très important, que malgré ces relations d'amitié et cet idéal de compadrazgo, la foire est aussi traversée par ces techniques d'engagno, donc de tromperie, et que les interactions ne sont pas nécessairement toujours amicales, elles sont aussi tissées d'affrontements, de mise en cause. J'ai lu des extraits qui le montraient, mais je veux insister sur ça pour ne pas donner le sens d'une sociabilité très lisse et toujours très généreuse, parce que ce n'est pas le cas, en fait. La scène de la foire est aussi une scène de tension, de tromperie et de compétition entre les participants. Mais il n'en demeure pas moins que les participants de la foire sont enjoints de se rendre à la foire joyeux, allegre, comme ils disent, aussi parce que c'est une marque de respect, en fait, dans la manière dont ils se rendent à cet événement. Et les anciens enjoignent les plus jeunes d'aller à la foire avec une bonne humeur. Et cette bonne humeur, l'allégria, je l'ai montré aussi dans d'autres travaux, je ne vais pas revenir ici plus en profondeur là-dessus, elle constitue en fait un élément récurrent dans tous les rituels, et pas seulement ici à la foire, dans toutes les offrandes qui sont données à la Pachamama et au saint, l'allégria constitue vraiment une composante qui revient de manière récurrente, mais je ne vais pas développer ceci plus en avant ici, peut-être qu'on reviendra sur ce point dans les questions. Questions et réponses. La foi est aussi mentionnée par les participants comme étant une composante nécessaire pour se rendre à la foire. À l'inverse, Hilda disait « Oui, dorénavant, les gens viennent à la foire avec le seul intérêt d'échanger. Ils ne sont plus motivés par la foi, comme ça aurait été le cas dans un passé idéalisé. » Mais donc, ça montre bien que participer à la foire, c'est aussi un geste, un acte de foi et pas seulement une entreprise économique. Combien de temps me reste-t-il ? Ah, alors j'ai traîné. Bon. Ah, ici on voit... Ici, c'est une photo qui montre la procession de Sainte Catherine qui passe à travers la foire et qui bénit les échanges et en même temps doit être réjouie par les échanges qui sont faits, et donc c'est fait partie de sa procession, c'est une manière de réjouir la sainte. Donc j'en viens maintenant à, le plus rapidement possible, à ce processus de patrimonialisation du cambio par lequel des municipalités et des ONG veulent reconnaître le Cambio et les foires comme faisant partie du patrimoine culturel donc de ce peuple indigène Kaya qui a été reconnu donc en 1994 comme étant un des peuples indigènes de la nation. Et j'ai travaillé pendant 2 ans avec une ONG, donc j'ai participé à l'organisation de différentes foires, puis j'ai été visiter d'autres foires. Et je vais ici dresser une forme de panorama général qui ne correspond pas à un exemple, mais à des modifications récurrentes que j'ai observées dans différentes foires. Dès lors qu'elles étaient investies par la municipalité pour être données à voir comme patrimoine culturel, ou dans le cas de foires qui étaient organisées directement par une ONG, puisque dans cette région, le calendrier des foires devient de plus en plus rempli parce que les ONG aime organiser une foire à leur effigie. Alors lorsque la municipalité déclare la foire comme étant un patrimoine culturel de la région, la foire revient le plus souvent vers le centre du village. Alors tandis qu'elle était auparavant, elle se déployait à l'orée du village, là où les animaux de charge peuvent demeurer aux alentours, elle est rapatriée vers le centre du village, encerclée de barrières. On voit apparaître des étendards tels que celui-ci annonçant l'entrée. Il y a des postes de sécurité, des postes sanitaires. On distribue des cartes à l'entrée pour que les visiteurs puissent identifier les différents secteurs dans lesquels on a localisé les paysans pour qu'ils se trouvent dans des endroits spécifiques en fonction de ce qui est prévu donc par les organisateurs. Et très souvent aussi, une scène est composée dans laquelle un acte inaugural est donné, dans lequel les paysans se montrent dans leurs plus beaux apparats, typiquement indigènes. Ils promulguent des discours, ils invitent des autorités politiques à venir parler également. Ils hissent des drapeaux nationaux, les drapeaux des indigènes. Dans certains cas, il y a aussi des parades de communautés indigènes qui sont réalisées, et donc des groupes réunis selon leur appartenance communautaire avec des drapeaux qu'ils ont décorés avec ces emblèmes qui représentent leurs étages écologiques. Ils paradent comme ça avant que la foire ne commence. Et une autre caractéristique de ces foires, ce sont les concours qui sont réalisés. Et les concours sont pour moi importants parce qu'il s'agit d'une méthode pour distinguer en fait des paysans exemplaires et qui sont des paysans qui ont bien acquis, bien imprégné les normes et les messages qui leur ont été transmis dans les différents programmes de développement et donc qui ont réussi à mettre en pratique ce qui leur a été transmis dans les différents projets. Donc on a toujours le concours du plus bel étal où on voit comment sont arrangés tous ces produits qui sont étiquetés, classifiés, distingués comme dans le sens d'un processus de patrimonialisation très classique qui veut tout ranger, tout catégoriser, tout étiqueter pour pouvoir quantifier aussi les données. On voit apparaître toute une série de biens sur ces étals qui n'ont pas de valeur d'usage mais qui sont là en tant que signe, index de l'identité des personnes qui sont présentes. Et par ce processus de concours, de parade, sont identifiés donc des paysans reconnus comme étant exemplaires. Mais ici, cette extension, de nouveau, je reprends les termes de Munn, cette extension des subjectivités vertueuses, elle ne s'attache plus à la qualité de dimension et de taille des produits agricoles. Évidemment, c'est un critère, mais les critères qui permettent aux paysans de se distinguer sur cette scène-là, ce sont les critères qui ont été appris auprès des techniciens du développement et qui répondent aux critères qui sont établis, qui sont des critères d'hygiène, des critères de production de biens qui correspondent aux marchés urbains dans lesquels ces biens vont pouvoir être produits. Et donc on voit comment, sur ces scènes patrimonialisées, est donnée à voir l'image de paysans indigènes qui correspondent à l'image qui est attendue d'eux sur la scène nationale, qui est attendue d'eux pour qu'ils puissent prétendre symboliquement aussi à ce statut de citoyen complet dans cette nouvelle Argentine multiculturelle telle qu'elle est tracée par la nouvelle constitution de 1994. Et les autres paysans exemplaires, en plus de ceux qui ont mis en pratique les conseils et les enseignements des techniciens, ce sont les promoteurs de ces petites ONG, qui sont des paysans locaux, qui sont recrutés par les ONG et qui, lors de ces foires, se sont aussi donnés à voir en pouvant, en donnant des discours, en conduisant des jeeps, en installant les gens, en gérant vraiment l'espace de la foire. C'est aussi leur statut à eux qui est donné à voir et qui est assis et diffusé dans l'espace qui est mis en branle par cette foire spécifique. Et ici, il y a un autre aspect qui distingue ces foires patrimonialisées des autres, c'est que l'entité sociale, en fait, qui est donnée à voir est différente de celle des foires dont je vous ai parlé précédemment, puisque ici, ce sont les communautés qui sont membres du programme en question qui vont être invitées. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont toujours nationaux et très souvent provinciaux, tandis que dans le cas des foires que je vais qualifier de spontanées, j'avais souligné le fait que l'entité culturelle qui se retrouvait tracée, c'était une entité transfrontalière qui n'est pas verbalisée en fait par un ethnonyme spécifique, mais qui est juste mise en action à travers ces foires et ces fêtes, tandis qu'ici, c'est vraiment l'identité, l'ethnicité Koja qui est mise en lumière, hein, ici, Cultura Viva del Pueblo Koja, on veut montrer, donner à voir cette ethnie Koja qui est désormais reconnue par le gouvernement argentin, mais dont les délimitations ne dépassent pas évidemment l'Argentine et n'arrivent pas sur le territoire bolivien où se situent en fait des partenaires de troc avec qui ces paysans entretiennent donc des relations économiques par ailleurs. Alors l'autre modification significative donc, qui est produite par la patrimonialisation, si j'ai encore 2 minutes, tient à la signification que ces organisateurs donnent au troc, où on voit apparaître une image tout à fait romantique, idéalisée d'un troc solidaire, d'un troc communautaire qui se tiendrait entre ces paysans et qui reflèterait une grande générosité entre ces paysans andins. Alors on voit que cette perspective, elle est verbalisée par exemple dans les termes... Ici, c'était, je reprends les mots donc, d'un organisateur d'une foire qui était convié par une ONG où il disait aux paysans, pour insister et être sûr que les trocs soient réalisés convenablement, « L'objectif est de partager tout ce que nous avons, pas de rivaliser. Nous sommes tous des frères. Nous savons que les gens présents aujourd'hui le seront l'année prochaine également. » Alors une secrétaire du tourisme dans un village de la vallée me disait « C'est absolument merveilleux de participer à une foire de troc, c'est une expérience tellement belle, je veux dire là il n'y a pas d'argent comme intermédiaire, seulement la valeur de la solidarité et cela fait partie de notre héritage culturel. » Et donc ici il y a une différence stricte qui est établie entre un troc bienveillant, généreux et des échanges monétaires qui sont bannis et qui seraient corrosifs donc pour cette cohésion communautaire indigène, tant et si bien que dans certaines foires, les échanges monétaires sont proscrits et les petits commerçants aussi, ils n'ont pas droit d'accès à la foire. Et donc, ce qui est donné à voir, c'est une forme d'échange tout à fait généreuse. Mais on n'entend jamais parler des mesures des ancêtres. Ça ne transparaît pas dans ces discours. Donc, le troc devient réfère vraiment à cette idée d'échange non monétaire dont je référais en tant que définition très large de ce que peut être le troc. Mais ce n'est pas non plus la vision qui est adoptée par les intellectuels, puisque contrairement à ce troc désenchâssé des relations sociales que nous donnons à voir dans la littérature anthropologique, on trouve ici une figure de troc qui est associée à une image tout à fait positive et généreuse. Alors il faut savoir que dans la société argentine, cette image du troc n'est pas non plus partagée, puisque les créoles et les blancs qui habitent Jujuy considèrent le troc, dans une grande partie, je ne vais pas faire une amalgame, mais considèrent le plus souvent le troc des indigènes comme étant une pratique tout à fait non rationnelle, non efficace, par lesquelles des paysans s'échangent 3 pommes de terre contre 1 bout de viande sèche, et considérant qu'en fait que le troc représente davantage leur manque de culture, leur manque d'éducation et leur incapacité à intervenir de manière efficace sur la scène marchande, ce qui est faux évidemment, et qui, et comme ça a été montré notamment par Brooke Larson et Olivia Harris dans un ouvrage sur l'intervention des paysans andins sur les marchés depuis le tout début de la colonie. Et donc on voit ici comment sur ces scènes d'échange se retrouvent différents régimes de valeur du troc lui-même et comment le troc est apprécié à travers différentes valences éthiques. Mais évidemment, je ne veux pas donner ici l'impression que les paysans seraient comme des petites marionnettes qui viennent et qui se représentent et qui paradent au service des institutions étatiques, puisque eux continuent de réaliser le troc comme bon leur semble et de réaliser dans ces enceintes des transactions qui s'inscrivent dans leur manière de faire. Alors j'en viens à une très rapide conclusion. Donc, j'espère vous avoir convaincu à travers mon exposé que des fines ethnographies du troc seraient tout à fait profitables au déploiement de la théorie anthropologique, notamment en ce qui concerne la circulation matérielle, la création de valeur ou la régénération sociale d'une manière plus générale. Et donc, moi, je suis évidemment partisane de l'idée d'une notion de troc reconnue en tant que telle. Mais peut-être par contraste avec Humphrey Jones, qui refuse de donner une définition du troc pour ne pas l'enfermer dans un carcan trop étroit, je pense qu'il serait souhaitable de resserrer un peu notre conceptualisation du troc au-delà de cette idée donc d'un échange qui est non monétaire, pour aller au-delà de l'absence d'argent et de mettre en lumière les régimes de valeur qui sont mis en avant, créés par les partenaires de troc. Et je pense que c'est en parvenant vraiment à rendre compte de ces régimes de valeur qu'on va pouvoir identifier le troc en tant que mode d'échange en tant que tel, et non nécessairement par comparaison toujours avec le don ou l'échange marchand. Et parmi toutes les catégories qui sont parmi les différentes catégories caractéristiques qui sont identifiées par Humphrey et Hugh Jones comme étant non nécessaires et non essentielles, mais ils énumèrent toute une série de caractéristiques possibles du troc, il en est une qui me semble particulièrement pertinente pour comprendre le cambio et qui, je pense, permettrait de distinguer le troc clairement du don et de la marchandise. Et c'est lorsqu'ils nous disent « le troc est déterminé par l'intérêt que chacune des parties a pour l'objet détenu par l'autre, un intérêt qui est satisfait par la transaction ». Et donc cette idée d'intérêt et de valeur d'usage me semble fondamentale pour pouvoir comprendre ce qui est vraiment particulier au troc et qui le distingue tant de l'échange monétaire marchand dans lequel l'argent n'est pas apprécié pour sa valeur d'usage mais pour sa valeur d'échange, et le distingue également du don qui ne se fonde pas principalement sur des valeurs d'usage mais sur la qualité de la relation sociale qui va être tissée à travers la circulation. Et sur les valeurs donc davantage symboliques. Et donc il me semble que cette valeur d'usage et la notion de désir, de désir qui rejoint les partenaires et qui les invite à s'échanger et à acquérir ces valeurs d'usage me semble être une clé qui permet de distinguer donc cette catégorie d'échange en tant que telle. Et Donc j'ai montré à travers cet exposé que en changeant l'attention de l'absence de monnaie vers le régime de valeur, on devient capable de rendre compte de la performativité du troc, non seulement des valeurs subjectives qui peuvent être produites, mais aussi de valeurs sociales, d'identité, d'appartenance. Ici, on voit comment à travers le cambio émerge un sens d'appartenance ethnique qui n'est pas qualifié par les ethnonymes qui sont en circulation, mais derrière se cache néanmoins un sentiment d'appartenance à une entité culturelle commune derrière ses ancêtres qui ont défini les mesures du cambio. Et de ce fait, donc, cette performativité du troc embrasse également ces non-humains qui sont respectés et réjouis par la mise en application des valeurs qu'ils ont transmises et par la joie que cela procure chez les humains qui les célèbrent. Et puis, dans un dernier temps, j'ai montré aussi que ce troc peut, lorsqu'il est patrimonialisé, en venir à produire des valeurs civiques qui doivent permettre à ces paysans de devenir des citoyens appartenant à l'ethnicité Koya, telle qu'elle est définie cette fois-ci par le gouvernement argentin. Mais donc, dans tous les cas, je pense que cette étude aussi du cambio nous permettrait de réfléchir, je n'aurai pas le temps de le faire ici, un concept qui a traversé, qui a une grande importance dans la formation de la pensée en anthropologie économique, qui est celle d'échanges rituels ou d'échanges cérémoniels. Et on voit ici que le troc peut effectivement être aussi réalisé de manière ritualisée et prendre part constitutive à un rituel. Et donc, je pense que cette étude nous invite à reconsidérer les frontières et l'étendue de cette notion d'échange cérémoniel pour y inclure le troc et pourquoi pas, dans certains cas, l'échange marchand. D'autres anthropologues ont aussi fait des études allant en ce sens. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Olivier Anger pour cette réhabilitation du troc et cette analyse aussi des travers dans lesquels on tombe lorsqu'on le patrimonialise. Je vais prolonger ce que vous disiez en conclusion pour revenir sur cette critique que vous avez faite, qui est tout à fait justifiée de la typologie, en quelque sorte, anthropologique des formes de circulation des biens. Je pense qu'on a été paralysé par l'essai sur le don, qui est un grand livre, mais qui est un livre un peu bizarre, puisque au fond, les formes de don que Mauss étudie dans cet essai sont tout à fait exceptionnelles, sont des formes d'échange agonistique assez rares, comme le potlatch, et ne représentent pas du tout, au fond, les formes de don les plus classiques, qui, à mon sens, doivent être interprétés pas du tout dans les termes où ça l'a été pendant longtemps. En particulier, vous citiez tout à l'heure Marshall Salins avec ses trois formes de réciprocité. Je pense que c'est une erreur de parler de réciprocité. La réciprocité désigne un mouvement dans l'espace et pas du tout une forme de transaction. Donc si jamais il y a quelque chose qui va d'un point A à un point B et que cette chose revient d'un point B à un point A, il y a réciprocité, mais c'est un mouvement dans l'espace de la chose et ça n'implique rien sur la nature des liens qu'il y a entre les personnes qui font bouger cette chose. Donc il faut bannir cette notion de réciprocité qui a été très utilisée aussi par Lévi-Strauss, hein, parce qu'elle ne définit rien des obligations sociales qui sont liées au transfert. Donc ça, c'est une chose effectivement très importante. Et d'autre part, cette séparation très nette qu'on a faite entre le don d'un côté et l'échange marchand de l'autre a eu tendance, en effet, à faire voir des échanges marchands, ou en tout cas des échanges à l'intérieur duquel il y avait, disons, qui n'était pas fondé sur le don. Je voudrais d'abord dire que pour moi, le don, c'est vraiment un don. Il n'y a de don que lorsqu'on n'attend rien en retour. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont on n'attend pas de retour. Et s'il y a un retour, ce n'est pas un don, c'est un échange. Donc la séparation entre le don d'un côté et puis l'échange, et notamment l'échange marchand, a eu tendance à faire oublier, comme vous l'avez fort bien souligné, cette idée que dans les échanges, notamment dans les échanges marchands, qu'ils soient médiatisés par la monnaie ou pas, il y a des relations sociales, bien sûr, et qui ne sont pas uniquement des relations sociales telles qu'on les analysait depuis Marx, par l'intermédiaire du fétichisme de la marchandise ou des choses comme ça. Ce ne sont pas des transactions, en quelque sorte, qui sont indépendantes du tissu social au sein desquels elles se déploient. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, notamment pour le troc. Et je pensais, là, en vous écoutant, moi, j'ai vécu quelques années dans une population où il n'y avait pas d'argent. Donc les échanges, lorsqu'ils se passaient effectivement sous la forme habituellement définie par le troc, mais il y avait plusieurs formes de troc. Il y avait des trocs qui sont liés, comme dans le cas que vous avez décrit, au fait que, en fonction, dans les Andes, cette fameuse hiérarchie, en tout cas cet étagement des étages écologiques fait qu'on ne produit pas les mêmes choses aux mêmes étages, et que pour avoir une subsistance complète, en quelque sorte, il faut pouvoir bénéficier des produits des différents étages écologiques. Donc là, on a un truc absolument classique, on échange des choses. Moi, je produis tel type de choses, que j'échange contre tel type de produits que je ne produis pas. On trouvait ça en Amazonie aussi, hein, chez les Achuar, c'est-à-dire il y avait des gens qui produisaient du curare, il y avait des gens qui produisaient du selgem, et donc les gens qui produisaient du selgem échangeaient avec les gens qui avaient du curare, parce qu'on a besoin aussi bien de curare que de selgem. Donc ça, c'est tout à fait classique, un troc classique. Mais la forme la plus courante de troc que j'ai observé, c'est des gens qui échangeaient les mêmes choses. C'est-à-dire, au fond, chacun produisait les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où tout le monde produit tout. Et donc, lorsque les échanges se font, comme les maisons sont autosuffisantes, à l'exception de quelques produits comme le curare et le sel, mais il y en a très peu, et auparavant de la pierre pour les outils de pierre, tout le monde produit tout, donc il n'y a pas de raison d'échanger. Et si l'on veut échanger, c'est-à-dire si on veut maintenir des relations sociales avec d'autres maisonnées, ben on échange nécessairement des choses que chacun produit. Et donc le troc, là, il a véritablement une forme, lorsqu'il n'est pas fondé sur la circulation de choses qu'on ne produit pas, il a vraiment une forme complètement sociale de ce point de vue-là, parce que on va un jour donner quelque chose, mais que l'autre personne peut produire elle en manque temporairement, etc. Et puis 15 jours, un mois, deux mois après, dans l'autre sens, on va rendre quelque chose. Mais ce n'est pas un don et un contre-don, parce que les valeurs sont quelquefois les mêmes. C'est quelquefois, donner une hache, par exemple, et recevoir une hache 3 semaines après, si je puis dire. Donc, de ce point de vue-là, le troc, effectivement, ne peut pas être défini comme une transaction commerciale ordinaire dans laquelle il n'y aurait simplement pas de monnaie. Mais je pense que même dans les transactions commerciales les plus classiques, on trouve ça. Moi, j'ai été très frappé, j'ai assisté en Équateur à l'arrivée des supermarchés dans les villes, hein, et en particulier à Quito. Alors, habituellement, quand on va acheter quelque chose dans la boutique du coin, il y a toute une sorte de rhétorique entre l'acheteur et le vendeur, quelquefois fondée sur le crédit, parce que le crédit joue un rôle important, mais pas uniquement, dans lequel, au fond, on présente la transaction comme quelque chose qui implique de la part du vendeur une certaine générosité. Et l'expression classique, c'est « no sea malito, deme tres manzanas ». Ne soyez pas méchant, donnez-moi 3 pommes. Pourquoi être méchant ? C'est simplement, on les paye, les pommes, de toute façon. Et ça enclenche la conversation, etc. Et lorsque les supermarchés sont arrivés, il y avait les caissières qui étaient là, et quand les gens arrivaient à la caisse avec leurs 3 pommes, et qu'ils essayaient de rentrer dans un type d'interaction de ce type-là, évidemment, ça ne marchait pas. Et donc les gens étaient complètement perturbés. Et c'était pas des indigènes ou des Koyas, c'était la petite bourgeoisie des villes. Et donc on voit là à quel point, au fond, des formes de purement d'interaction commerciale classique qui sont médiatisées par maintenant par les supermarchés, par une sorte d'anonymisation de la transaction, perturbe même la nature de ces formes de relations qu'on peut établir avec des partenaires commerciaux. Donc je pense que c'est très important, en effet, comme vous le faites, de ne pas limiter le troc à cette définition un peu générale. Qui est la transaction entre des gens qui ne se connaissent pas. Parce que d'abord, comme je le disais tout à l'heure, le troc peut aussi se passer entre des gens qui se connaissent. Les produits qui peuvent être échangés sont des produits qui peuvent être de même nature et pas simplement des choses dont on manque, en quelque sorte. Et quelquefois, en plus, d'ailleurs, ça se combine aussi avec des transactions monétaires. Et donc, en fait, vous nous invitez à dépasser toutes ces limitations qui, je crois, viennent, encore une fois, immense admiration pour Marcel Mauss, mais au fond, de la paralysie conceptuelle que l'essai sur le don a introduit dans la façon de penser les formes de circulation des biens. Et c'est pour ça que votre conclusion sur la circulation rituelle, je pense qu'au fond, pratiquement toutes les circulations sont rituelles. Peut-être même dans les supermarchés, on essaye de les ritualiser. Sauf qu'évidemment, quand ça devient complètement automatisé par des caisses automatiques.
Avec les machines, oui.
Avec les machines. Mais je pense qu'au fond, on peut voir les transactions... Si on admet, en tout cas, moi, c'est la position que je défends, de voir les transactions d'abord en fonction des obligations qu'elles suscitent chez ceux qui s'y livrent et des valeurs qu'elles véhiculent du fait des obligations qu'elles suscitent, et non pas exclusivement du fait, enfin, en prenant en compte le mouvement des biens, si on accepte de faire cela, effectivement, il faut voir les transactions comme une gradation, comme un continuum entre des formes extrêmement diverses qui peuvent prendre, à l'intérieur duquel, au somme, on peut inclure tous ces fétiches de la pensée anthropologique que sont la coula, le potlatch, enfin, toutes les formes d'échange très ritualisées, auxquelles les anthropologues se sont attachés, mais qui peuvent rentrer parfaitement dans une typologie, je crois, transformationnelle de ce type-là, dont on peut souhaiter que votre génération l'entreprenne.
Voilà, un plan de recherche qui est tracé.
Alors,
il a déjà été engagé dans les années 80.
Oui, bien sûr. Il y a des travaux comme ceux de Grégory aussi, qui sont déjà... Enfin, Grégory est plutôt de ma génération.
Maurice Bloch,
bien sûr, et Jonathan Parry, bien sûr. Je pensais en particulier à un article de Bloch sur l'essai sur le don aussi, où lui aussi soulignait cette caractère tout à fait exceptionnel. Et comme c'était son grand-oncle, en plus, il avait plus de liberté pour le critiquer, des exemples que Bloch a tirés. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, alors, au-delà de cette critique générale qui est à la fois implicite et explicite dans ce que vous avez présenté, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce que vous avez dit, c'est la patrimonialisation. C'est très curieux qu'un système d'échange... Alors, qu'est-ce que ça reflète sur les gens qui souhaitent patrimonialiser ? Qu'un système d'échange dans lequel l'argent n'intervienne pas devienne, au fond, une sorte de valeur perdue qu'il faut maintenir, entretenir, célébrer... Ça suppose, de la part des gens promeuvent, en somme, cette patrimonialisation, une vision très négative, je pense, des échanges marchands, mais c'est des échanges marchands non monétarisés aussi, qui produisent de la valeur, comme tous les échanges marchands, qui produisent du lien social. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre dire un mot. C'est non pas sur les gens qu'on a patrimonialisés ou dont on a patrimonialisé les gens, mais sur les patrimonialisateurs, si je puis dire. C'est, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, au fond, de considérer que la monnaie est quelque chose de négatif en soi, voire de pernicieux, voire d'immoral, et de promouvoir cela comme une forme de moralité dans les échanges, d'un degré supérieur que celle que les échanges monétaires permettent.
Je pense que c'est lié au nouveau statut qui a été donné sur la scène publique aux identités ethniques, à une image qu'on veut bien donner aux identités ethniques, parce que dans les rapports sociaux quotidiens, le racisme est toujours prédominant, mais il y a une forme d'idéalisation de l'indigène avec certains atouts qu'il aurait, une relation à la nature qui est tout à fait respectueuse, des échanges qui sont très généreux, un respect de la coutume. Et donc le troc vient s'inscrire en fait dans cette image idéalisée qui est construite depuis l'État-nation et depuis des instances internationales aussi cet indigène qui doit troquer. Et d'ailleurs les paysans Kogia sont conscients de ça, qu'il y a une attente de la part du gouvernement qui troque. J'ai demandé un jour à quelqu'un qui allait se rendre à une foire quelle était sa motivation. Il m'a dit nous sommes des Indiens, nous devons troquer. Donc ils comprennent ouais. Qu'on attend d'eux maintenant qu'ils réalisent ces trocs. Et donc il y a vraiment ça fait partie de toute une image en fait d'une ethnicité que l'Argentine accepte. Par contraste avec toute une série de pratiques d'indigènes qui sont refusées. Toute l'indigénité urbaine, par exemple, est beaucoup moins valorisée. Les indigènes qui sont dans les banlieues des grandes villes, eux, ils sont pas mis en exergue comme ça. Et donc, c'est une manière de retourner à cette image purifiée d'un indigène en contact avec la nature. Et sur ce point-là, j'ai examiné la nostalgie en fait qui se cache derrière ces discours, puisqu'il y a vraiment une idéalisation d'un passé qui n'est pas identifiable dans le temps. On ne sait pas vraiment quand aurait existé cet état de pureté indigène, mais c'est en vertu de cela donc que le troc est rappelé et idéalisé et remis en pratique par en tout cas appelé donc par ces agents de la patrimonialisation. Mais on voit ce caractère nostalgique et cette ambiguïté du lien au troc apparaître de manière très claire quand on regarde les projets en fait qui sont réalisés effectivement par ces agents de développement qui mettent en exergue le troc lors des foires comme une qualité en fait culturelle de l'identité ethnique, mais dans leurs projets économiques qui financent, fournissent des microcrédits, soutiennent le microemprendimiento, donc la microentreprise, exigent aux paysans de tisser et de tricoter des nouveaux pulls qui répondent aux attentes des touristes et des marchés urbains pour qu'ils puissent finalement les vendre, parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient sans ça, c'était pas très intéressant. Et donc, tout leur programme, en fait, strictement économique, s'oriente vers le marché. Le troc devient, par l'effet de la patrimonialisation, un lieu de mémoire au sens de Nora, si je peux me permettre, qui est là pour représenter en fait l'identité ethnique, mais pas pour son efficacité économique.
Oui, oui, c'est passionnant. C'est, en fait, il y a une dissociation complète entre ces deux domaines. Et ces gens, ils viennent, ces patrimonialisateurs, ce sont des agents de l'État, ce sont des agents de la province, ils ont quoi comme formation ? Il y a des anthropologues parmi eux,
Il y a quelques anthropologues, il y a plus d'agronomes, beaucoup d'agronomes, et qui à 90% viennent des grandes villes du sud de l'Argentine. Ah, et donc, ils sont identifiés comme étant des gringos, comme moi je l'étais, mais qui sont des Argentins, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, qui fuient en fait ces énormes centres urbains à la recherche de ces communautés pristines, de ces communautés qui sont vraiment restées dans ce contact avec la nature magnifique, mais qui se situent quand même dans une situation ambivalente où il y a une énorme idéalisation donc, de cette culture indigène, mais à la fois une nécessité reconnue d'intervenir pour améliorer leurs conditions de vie. Donc ils sont à la fois idéalisés mais dépréciés puisqu'ils ont besoin d'une intervention extérieure ici qui est reconnue comme blanche puisque ces techniciens sont associés vraiment avec, avec ces gringos qui viennent du sud du pays. Le cœur ouvert, hein, je pense vraiment avec beaucoup de bonnes intentions, mais c'est vrai que ça produit en fait des interactions sociales très curieuses parce que tout ça se déroule sur... sur un décor de racisme omniprésent sur la scène nationale des populations plus blanches envers les indigènes.
Oui, puis
il y a encore énormément de discrimination économique et politique très très forte. Mmh. Et donc c'est assez curieux comme genre d'interaction.
Et c'est une patrimonialisation nationaliste aussi, puisque cette patrimonialisation exclut les Boliviens et en général les Boliviens sont assez... maltraités comme migrants en Argentine.
Oui. C'est très nationaliste et à la fois tout ça s'ancre dans des discours internationaux puisque beaucoup de projets sont financés par la Banque mondiale.
Oui.
On retrouve directement tous ces discours d'empowerment, de lutte pour l'égalité de genre. Vraiment, tous les leitmotifs du développement international se retrouvent cristallisés dans l'organisation des foires.
Je suis sûr qu'il y a des questions.